Oui, il n'y a pas de question. Nous avions commencé la dernière fois un aspect qui serait intéressant à étudier, les diverses modalités de la liberté, de l'acte libre. Parce que c'est toujours très important de comprendre que la liberté en soi n'existe pas, sauf dans une statue. Là, vous avez la liberté, statue de la liberté, quand vous arrivez aux États-Unis. Mais autrement, on parle d'acte libre. C'est quand même important parce que ça qualifie un acte, être libre. Un acte libre. Un acte qui n'est pas libre, c'est un acte qui s'impose à moi ou qui m'est imposé. Alors je suis obligé de faire ça. Autrement, je risquerais de recevoir telle ou telle punition. Est-ce que c'est un acte libre de mettre la ceinture en voiture? Bon, c'est un acte d'obéissance à une loi. Alors, un acte d'obéissance à une loi est un acte libre, s'il reste un acte humain. Évidemment, vous pouvez très bien le faire comme un acte non humain. Disons, ça m'empoisonne de faire ça, c'est complètement stupide, je le fais parce que je ne veux pas payer d'amende, et des trucs comme ça. Alors, c'est un acte qui devient frontière. Les anciens distinguaient un acte d'homme et un acte humain. Ce n'est pas si bête. L'acte d'homme, c'est un acte instinctif. C'est un acte instinctif. C'est un acte qui est de l'homme. Le fricare barbam, qui était l'acte qu'on considérait comme tout à fait l'acte instinctif. Les gens qui ont des tics. Ils ne savent pas très bien pourquoi ils font ça, mais ils font tout le temps la même chose. Les gens un peu agités font toujours la même chose. Quand on va visiter un asile, on voit qu'il y a des gens qui font toujours la même chose. Et vous avez bien l'impression que c'est un acte d'homme, c'est bien évident. Ce n'est pas un acte humain. Un acte humain est volontaire. Et un acte humain, pour être parfaitement humain, est libre. Mais il y a des modalités différentes, parce que obéir est un acte libre. On a accepté d'obéir. Mais vous pouvez obéir par contrainte. Alors la liberté diminue. Vous pouvez obéir parce que vous avez peur du gendarme, peur de l'amende. À ce moment-là, la liberté diminue de plus en plus. Et ça tend à devenir un acte d'homme. Donc vous voyez, il y a toute une frontière. C'est extrêmement important de bien comprendre qu'entre l'acte d'homme et l'acte humain, il y a toute une gamme. Pour chacun d'entre nous. Enfin, si on avait un manomètre qui mesurerait exactement le nombre d'actes durant sa journée qui sont libres et d'autres qui sont des fricarés barbames, n'est-ce pas, on verrait que pour chacun d'entre nous, c'est très très différent. Chez certaines personnes, vraiment, leur vie est pleinement consciente. Pour d'autres, va comme je te pousse. Oui, on a posé un acte libre pour faire telle ou telle chose, puis après, on fait comme tout le monde, on suit comme tout le monde. Faire comme tout le monde, suivre le troupeau, ce n'est pas un acte humain, c'est un acte d'homme, un acte de mouton. Ce n'est pas un acte libre au sens fort. Et c'est pas si commode que ça de discerner dans notre vie le nombre d'actes libres et d'actes qui sont des actes qu'on fait parce que on appartient à un groupe. Oui.
Le décret sur la liberté religieuse dans le titre 2 dit que la liberté, c'est un peu le droit de ne pas être empêché de mener sa vie selon sa conscience.
Oui, c'est négatif. C'est négatif. Je veux bien, mais c'est négatif. C'est une définition de la liberté qui a été donnée à partir du libéralisme. Ça. C'est pas du tout la définition profonde.
Oui, mais il y a comme l'aspect de la conscience qui est intéressant.
Oui, si c'est volontaire, c'est conscient.
C'est pour ça.
Qui dit volontaire des conscients, vous voyez ? J'aime mieux définir par volontaire que par conscient. Parce que tout volontaire est conscient. Et la conscience peut être aussi du côté d'un acte violent. J'ai conscience d'être violenté. La conscience ne définit pas l'acte libre. C'est le volontaire. Oui. Oui, je ne suis pas dans la liberté religieuse. Hein. Je prends la, j'essaie de comprendre ce que c'est que l'acte libre. Oui. Oui, c'est la conscience morale, c'est pas la conscience psychologique. Mais j'essaie de définir ce que c'est que. Bon, d'abord, je crois partir de là, vous voyez, il n'y a pas de définition de la liberté. Il y a des actes libres. Alors, l'acte libre, c'est un acte humain. Dans les actes, et puis des actes qui sont des actes d'hommes, qui ne sont pas libres et qui ne sont pas volontaires. Vous voyez ? Je crois que c'est la distinction la plus fondamentale, celle-là. Vous voyez ? C'est de partir de là, c'est de partir de ce simple fait, il suffit de constater dans notre vie, des actes d'hommes et des actes humains, des actes volontaires. Parmi les actes volontaires, il y a des actes qui impliquent une volonté de spontanéité dans une recherche d'amour et des actes volontaires qui sont subis. Je subis ça, volontairement je le fais, parce que je sais bien que je ne peux pas faire autrement. Oui. Alors, intervient, si j'analyse ce que c'est qu'un acte libre ou un acte volontaire, intervient toujours l'intelligence et la volonté. D'où ce qu'on dit le libre arbitre. Ça, c'est déjà plus élaboré. C'est déjà quand on a vu qu'à l'intérieur de l'acte, dans l'acte volontaire, il y avait toujours intervention de l'intelligence. Il ne peut pas y avoir un acte, il ne peut pas y avoir d'acte libre, d'acte volontaire sans l'intervention de l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui me permet de prendre la distance entre ce qui s'impose à moi et ce que je peux poser ou ne pas poser. Vous voyez, ça c'est l'intelligence qui permet ça. D'où le point de vue du libre arbitre qui voit le lien entre le point de vue volontaire et le point de vue liberté. Bon, alors, nous voyons là, et je prends de là pour montrer que tout de suite, il y a une très grande gamme d'actes volontaires et d'actes libres. Il n'y a pas un seul type d'acte libre. C'est très varié. Tandis que si vous prenez la liberté en soi, ben, vous donnez une définition qui pratiquement n'existe pas. Il n'y a pas de liberté en soi. Il y a des actes libres, alors vous pouvez regarder les conditions par lesquelles un acte sera libre. Et vous voyez, ce que vous lisez, c'est beaucoup plus les conditions par lesquelles un acte est libre que de définir ce que c'est l'acte libre. Alors vous définissez les conditions pour qu'un acte libre... Un acte soit libre, il faut telle ou telle condition. Et c'est au fond, je crois, quand on définit la liberté, en essayant de définir la liberté, on regarde les conditions pour qu'un acte soit libre. Parce que si j'essaie de préciser ce qu'est un acte volontaire, je prendrai toujours le point de vue de la finalité, le point de vue du bien. Puisqu'il est volontaire, il tend vers le bien. Et alors je précise à partir de cet amour ce qu'on représente le point de vue de la liberté. Mais c'est Descartes, le premier philosophe, qui a voulu définir la liberté en elle-même. Et il l'a définie par rapport à la liberté de Dieu, à la liberté humaine. C'est très très curieux. Ça fait tout de suite comprendre qu'on regarde la liberté dans l'absolu de la liberté de Dieu et dans le caractère relatif de la liberté humaine. Et pour Descartes, c'est la liberté qui est le point par où le point de vue de l'homme et le point de vue de Dieu sont les plus proches. C'est, au point de vue philosophique, hein, c'est par le point de vue de la liberté que Descartes va mieux saisir les liens qui existent entre Dieu et l'homme. Il y a quelque chose de commun. Elle dit qu'il y a quelque chose de commun. C'est le point de vue de la liberté. Vous comprenez que ce quelque chose de commun, il est très particulier, parce qu'en réalité, si je regarde l'acte libre en Dieu, c'est l'acte créateur. Et si je regarde l'acte libre en moi, c'est à l'intérieur de ces actes volontaires l'apparition d'un acte qui choisit des moyens en vue d'une fin, par exemple. C'est là où je commence à mieux comprendre. Donc, première affirmation, je crois très importante, c'est de regarder que c'est l'acte libre qu'il faut essayer de préciser. Deuxièmement, préciser que dans ces actes libres, il y a deux types très particuliers. L'acte moral, dans ma vie morale de responsabilité, je dirais je suis responsable à l'égard de mes actes libres. Un acte qui n'est pas libre, je ne suis pas responsable. Et donc je regarderai la liberté en fonction de la responsabilité. Pour que la responsabilité existe, il faut qu'il y ait la liberté. Et je regarderai qu'un acte n'est libre que lorsque il est en conformité vers la fin vers laquelle je tends. Et je choisis des moyens. Et je suis libre par rapport à ces moyens. Et ce que je vous soulignais la dernière fois, est-ce que nous sommes libres par rapport au premier amour qui suscite en nous ? Et je crois que là, nous devons dire que ce premier amour s'impose à nous, mais nous ne sommes pas libres. Mais nous sommes libres d'accepter que cet amour grandisse. Ou au contraire, de faire tout pour que cet amour ne grandisse pas. Et donc, petit à petit, dépérisse. Alors là, il y a une liberté très fondamentale, qui sans doute au point de vue moral est la plus fondamentale. C'est la liberté qui consiste à poser ou ne pas poser cet acte. Exercer tel ou tel acte, ou au contraire ne pas l'exercer. À côté de cette liberté morale, il y a la liberté du facere, la liberté de l'activité artistique. L'artiste apparaît toujours comme un homme très libre. Je vous ai dit, aimons la fable de La Fontaine, le loup et le chien, parce que ça nous fait très bien comprendre la liberté de l'artiste. Les vrais artistes sont libres comme des loups. Et les fonctionnaires sont libres comme des chiens. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils ont une liberté qui est beaucoup moins grande. Tandis qu'au contraire, l'artiste a cette liberté extraordinaire. Pour lui, c'est capital dans sa vie d'être libre. Et l'artiste a une liberté qui ne repose plus sur l'amour. Et c'est ça qui fait la très grosse différence de la liberté de l'artiste, de la liberté de l'ami. Un ami est libre. C'est ce que vous direz toujours à quelqu'un qui vous dit « Je t'aime, est-ce que tu m'aimes librement ?» C'est bien évident. Si vous dites à un ami « Je t'aime parce que je suis forcé de t'aimer, je t'aime par devoir, mon vieux. Je crois que c'est vraiment mon devoir de t'aimer. » Ça fait la douche d'eau froide, n'est-ce pas ? Parce que ça prouve que ce n'est pas très, très, très spontané et qu'il y a quelque chose d'autre. Je t'aime d'abord parce qu'autrement, je sais que tu serais capable de te suicider si je te disais que je ne t'aime pas. Alors, très bien, c'est même par devoir. Aimer par devoir, vous voyez, c'est très limité comme liberté. La vraie liberté repose sur un amour qu'on a accepté. Et alors, à ce moment-là, on a la liberté de l'ami. Puis il y a la liberté de l'artiste. La liberté de l'artiste repose sur l'inspiration et non pas sur l'amour. C'est ça qu'il y a là deux aspects très différents. Et dans le libre arbitre, on a regardé toujours la liberté de l'activité morale. On n'a pas tellement regardé la liberté de l'artiste. Vous voyez, il faut que Sartre soit là pour nous réveiller, comme toujours, pour nous réveiller, nous obliger à dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de liberté que je vois chez Sartre ?» La manière dont Sartre définit la liberté, l'acte libre. Et quand vous regardez de près, vous voyez que c'est la liberté de l'artiste. C'est la liberté du loup. C'est pas du tout la liberté, c'est la liberté du loup. Alors, quel est le caractère propre de la liberté de l'artiste ? L'artiste est libre en fonction de son inspiration. C'est pour ça que les petits artistes qui n'ont pas beaucoup d'inspiration ne sont pas très libres. Tandis que les grands artistes qui ont une grande inspiration, une inspiration profonde, voilà, ont une liberté toute différente. Parce que grâce à l'inspiration, ils se situent beaucoup plus haut. Ils ne se situent plus dans la vallée où se trouvent les combats. Ils se situent beaucoup plus haut. Et alors, se situant beaucoup plus haut, il a une idée, à partir de l'inspiration, mais une idée, un projet, pour réaliser quelque chose qu'il porte en lui. Et ce quelque chose qu'il porte en lui doit se réaliser de telle ou telle manière. Mais l'artiste est toujours libre de refuser cette inspiration qu'il a. On lui demande de la réaliser de telle ou telle manière. Il dit, ah non, non, non. Je ne la réaliserai que d'une seule manière. Peut-être très intransigeant. Alors dire, est-ce qu'il est orgueilleux? Pas du tout. C'est simplement parce qu'il a des idées. C'est jamais commode de coopérer avec des gens qui ont des idées. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont sale caractère ont nécessairement des idées. Il y a deux manières difficiles de coopérer avec les gens, ceux qui ont des idées et ceux qui ont sale caractère. Ça, c'est très difficile, mais ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai que quand quelqu'un a des idées, c'est très difficile de coopérer avec lui. Parce qu'il est déterminé en fonction de son idée. Vous voyez, dans la liturgie, par exemple. Les batailles liturgiques proviennent de ça, toujours. Parce qu'on a des idées. C'est normal d'en avoir, il faut en avoir. Il ne faut surtout pas les brûler trop vite. Il faut attendre qu'elles soient réalisées dans l'exécution. Alors, une fois que c'est réalisé dans l'exécution, on peut se mettre à en avoir d'autres. Mais il faut la réalisation. Alors, l'acte libre repose sur l'inspiration. L'acte libre repose sur l'inspiration. On a une inspiration et on doit essayer de réaliser cela de telle ou telle manière. L'artiste possède sa liberté à partir de son inspiration. Vous voyez, s'il ne possède pas d'inspiration, il est obligé d'exécuter tout simplement ce qu'on lui demande. Quand vous n'avez pas d'inspiration, vous êtes très souple. Dans ce domaine-là, vous êtes gâte sauce. Je ne sais pas du tout comment ça se cuit un poisson. Je ne sais pas du tout comment ça se cuit. Alors, on me dit de faire ça, très bien, je le fais. Tandis que quand je sais, et qu'on me dit juste l'inverse, ah, je dis, ah non, ah non, c'est impossible, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé, et votre détermination, qui vous donne une très grande liberté à l'égard de l'idée que vous voulez réaliser, vous coupe des autres et vous sépare des autres. Ça, c'est sûr. Donc, vous voyez, c'est curieux. La liberté est un champ intérieur qui se crée en nous et qui peut très bien nous séparer des autres. C'est pour ça que c'est jamais absolument universel. Et que la liberté ne se définit pas par rapport aux autres. C'est très curieux, c'est très intéressant du reste de voir ça. Comment la liberté se définit par rapport aux autres. Je crois que c'est le libéralisme. Je crois que c'est avec Locke que la liberté s'est définie par rapport aux autres. C'est assez récent, c'est le 17e siècle. C'est pas vieux. Tandis que la vraie liberté se définit de l'intérieur à partir de l'activité vitale. C'est une activité vitale qui est spirituelle et qui est libre. Puis les autres, ben très bien, on verra ce qu'ils prendront, ce qu'ils ne prendront pas. Donc c'est pas en fonction des autres que je définis ma liberté. C'est en fonction de ma finalité ou en fonction de mon idée. Vous avez donc deux grandes sources de liberté. Deux grandes sources de liberté. Et c'est intéressant parce que c'est les deux grandes sources de liberté. Donc, c'est la fin. Quelqu'un qui est finalisé, à partir du moment où il est finalisé, découvre ce que c'est que la liberté. Découvre ce que c'est qu'un acte libre. À partir de la fin. Donc, à partir de l'amour. Parce que pour la fin, il faut mon bien. Il faut découvrir mon bien, il faut l'aimer. Donc, il appartient donc de l'intention de vie. À partir de l'intention de vie, se découvrent les actes libres. Et puis, il y a l'inspiration. l'idéal. Et à partir de là, il y a des actes libres pour réaliser cet idéal. Donc deux sources. Un amour, le bien, si vous voulez, est l'idéal. Ou la fin est l'idéal. C'est peut-être ça qu'on devrait dire. L'intention qui me lie à la fin, ou l'idéal qui est un projet. Tout idéal est un projet. Plus ma fin est élevée, plus je découvre une zone de liberté plus grande. Si ma fin est très très proche, une fin matérielle, je suis finalisé par la recherche de l'argent, ben vous serez très vite tyrannisé par l'argent. Très curieux. Tandis que si votre fin est d'aimer une personne, il y a un champ d'action. Donc quand je dis que la fin ouvre en moi, éveille en moi des actes libres, c'est une fin qui est une véritable fin. Mais quand je prends comme fin de ma vie la gloire, l'argent, la richesse, c'est juste inverse. Parce que c'est plus petit que moi l'argent. L'homme vaut plus que l'argent. L'homme vaut plus que la gloire. Et donc à ce moment-là, la fin que je choisis diminue mon champ d'activité. Et diminue mon champ. C'est vrai que je peux augmenter, diminuer mes liberté. Normalement, quand je choisis une fin qui est supérieure à moi, supérieure à la personne humaine, parce que c'est toujours la personne humaine qui est le sujet de la liberté, hein. Il n'y a que la personne humaine. C'est dans la mesure où je choisis une fin qui m'ennoblit, qui me permet d'aller plus loin, que la zone de liberté augmente. Si au contraire je choisis quelque chose qui me diminue, alors je suis dans une ornière. Extrêmement. Et à ce moment-là, la liberté diminue. Parce que je n'ai plus cette force vitale de m'accrocher à quelque chose de plus grand que moi. Si je m'accroche à quelque chose qui est plus petit que moi, qui me diminue, eh bien je diminue mon champ de liberté. Donc, ça, c'est très très important de comprendre que nous sommes libres d'être plus ou moins libres.
C'est intéressant pour l'inspiration, parce que ça dépend des valeurs qu'il y a dans l'inspiration.
Oui.
C'est de ça que va dépendre la liberté. Parce que ça pourrait être parfois un esclavage, cette liberté, quand son idéal n'est pas très très.
Alors, est-ce que vous pouvez faire la même chose? Mais ici, je vois ce qui augmente ma liberté, ce qui diminue ma liberté. Suivant que la fin est une véritable fin, donc qui est nécessairement quelque chose, un bien plus grand que moi. Ce qui me finalise est toujours un bien qui m'avance. Une personne humaine est capable d'aimer une autre personne humaine. Et la personne humaine que j'aime est toujours plus grande que moi. Comme je l'aime. Tandis qu'au contraire, si vous cherchez la richesse, eh bien la richesse est plus petite que vous. Et donc la richesse diminue votre champ de vie. Et c'est en fait, vous êtes libre d'augmenter plus ou moins ce champ de liberté. Je parle ici de la liberté intérieure. La véritable liberté, c'est la liberté intérieure. Parce que nous arrivons après à la liberté politique. Et donc cette liberté qui est une liberté personnelle, et c'est une liberté intérieure, c'est à l'intérieur d'un acte libre. Nous avons encore là, au point de vue de la personne qui ici est un artiste, donc l'artiste. Alors, dans la mesure où l'idéal qu'il a, à partir de l'inspiration, c'est quelque chose de grand, quelque chose d'exaltant, quelque chose de beau. La liberté est d'autant plus grande si votre idéal est au contraire quelque chose de tout à fait utile. La construction d'un outil. Cet idéal capable de fournir beaucoup de liberté. Parce que l'œuvre que vous faites est de l'ordre ultime. Tandis que quand vous faites une œuvre qui est de l'ordre agréable, l'inspiration qui est source de cette idée me donne beaucoup plus de liberté. C'est très curieux ça. C'est beaucoup plus impératif, beaucoup plus déterminé, et en même temps beaucoup plus libre.
Plus l'inspiration sera qualitative,
plus l'inspiration sera qualitative, plus l'idéal sera quelque chose qui sera grand, suscite en moi une admiration, oui. Et donc plus la liberté augmente. La liberté augmente du côté. Et en même temps, il y a un caractère impératif. La liberté d'exercice augmente. Et le côté de la détermination est plus grand. Non, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il n'y a pas de contradiction, puisque la liberté d'exercice augmente, en ce sens que, par rapport à cet idéal, toutes les réalisations. Mais en même temps, la matière dans laquelle je dois réaliser cette chose va s'imposer. Je ne pourrai réaliser cet idéal que dans telle matière, avec tel petit, je deviendrai méchant. Et là, dans la détermination, c'est très très bien. Dans l'ordre de l'exercice, j'ai une liberté très grande, parce que je peux accepter ou pas accepter. Je suis porté par mon idéal. Un artiste qui a une idée grande et profonde, il est porté par cette idée. Et donc il est très libre. Et en même temps, parce qu'il veut réaliser cette idée qu'il a, ce projet qu'il a, il y a quelque chose de très impératif. Très intransigeant à cause de cet idéal. Si au contraire l'idéal est de l'ordre de l'ultime, vous voyez que la zone de liberté d'exercice est beaucoup moins grande. C'est de l'ordre de l'ultime, ça s'impose, il faut à tout prix vers ça. Et la liberté de choix, d'une certaine manière, augmente aussi. La liberté de choix augmente. Mais la liberté d'exercice diminue. Okay. Les deux. Oui.
Parallèlement, on pourrait dire qu'il y a des beaux qui vont nous faire dépasser l'homme, donc des biens qui vont faire grandir, comme les biens qui nous faisaient grandir. Et donc, on a besoin des uns qui sont épanouissants, et puis des beaux qui vont satisfaire tel sens, telle passion, qui en fait vont aller libre.
Oui. C'est ça que j'essaie de voir, en fond, la différence entre le point de vue vraiment d'une beauté, d'une œuvre qui va être quelque chose de grand. Mais elle ne finalisera jamais, totalement. Donc ça, c'est la liberté d'exercice dans l'art apparaît comme beaucoup plus grande que la liberté morale, alors qu'en réalité, la liberté morale est beaucoup plus grande. Bon. Troisième type de liberté, on essaie de voir les différents aspects. Au niveau politique, c'est une certaine liberté politique. Sur quoi repose la liberté politique ? Alors, est-ce que c'est la loi ou c'est bien la loi ? La liberté qui existe au niveau communautaire. Au niveau communautaire, c'est la liberté qui peut exister au niveau communautaire. On est lié au point de vue communautaire, parce que qu'est-ce qui fonde la communauté ? C'est la coopération. C'est dans la mesure où on coopère à une œuvre commune que le bien commun apparaît. Le bien commun n'existe qu'au niveau de la coopération. Pas de bien commun sans coopération. Alors, on peut dire que la liberté est mesuré au point de vue politique par le point de vue de la coopération. Et c'est le bien commun, c'est cette coopération qui va éveiller en moi un type particulier de liberté. Et c'est pour ça qu'au niveau de liberté politique, on parlera de liberté extérieure, fort extérieure, et liberté intérieure. sur le point de vue du bien commun. Ça repose sur le point de vue de la coopération. Alors, cette coopération reste sensible, et alors, cette coopération reste sensible, elle peut appliquer le point de vue extérieur et le point de vue interne. Alors je précise, la liberté de fort externe, c'est une liberté d'exercice. Alors, je peux poser tel acte, tel heure à tel heure. Je peux, au contraire, mais là, c'est pas juste une détermination, c'est une grande partie de l'exercice. Et la coopération interne, le bien commun que je dois chercher, c'est mon bien. Donc ça rejoint le point de vue. C'est pas ce qu'il faut préciser, c'est que apparaît là la liberté externe. La liberté extérieure va apparaître au niveau du bien commun. On vous laissera libre de vous exprimer comme vous voulez. On vous empêchera de vous exprimer comme vous voulez. Contraint de supprimer la liberté politique. Mais intérieurement, personne ne peut vous empêcher de penser de telle chose. C'est-à-dire que les indécis de l'époque, donc, je suis obligé de les supporter. Ils sont des indécis. Alors ça vous soulage. Momentanément, ça ne change pas grand-chose, Vous avez la liberté externe, la liberté externe d'expression, c'est ça. La liberté interne, elle revient à celle de l'époque. Je crois qu'il n'y a pas d'autre. Entre la nuit. Vous avez donc, j'allais dire,
oui.
Lucia ? Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de liberté d'expression. Cette liberté d'expression, ça repose sur quoi ? Et comment la liberté d'expression se supprime ? C'est la mise en commun, c'est la coopération, qui limite cette liberté d'expression, ou au contraire l'augmente. Et plus vous êtes unis dans une coopération profonde, plus votre liberté d'expression augmente. Et plus vous êtes extérieur les uns aux autres, plus vous vous gênez mutuellement les uns aux autres. Alors ici, le point de vue de l'autre joue et intervient. Je définis la liberté par l'autre, parce que je suis nouveau communautaire. C'est très simple à comprendre, ça. Des gens qui habitent le même immeuble. S'il y a une coopération, on est très libre. On respecte les lois à partir de 10 heures du soir, avant de laisser que les gens puissent dormir. Alors on se respecte mutuellement. Tandis qu'au contraire, si aucune coopération, on est juxtaposé les uns à côté des autres. Alors par malheur, il y a un bourgeois qui se fait le mardi, les gens vacants le soir. Le mercredi, pour bien montrer qu'on est libre, on répondra de la même façon. Et alors à ce moment-là, c'est plus du tout une liberté. C'est une coercition de pouvoir. Et ce n'est plus une autorité, c'est le pouvoir. Alors là, on peut dire que le pouvoir vient limiter cette liberté. Alors que l'autorité devrait être la sauvegarde de la liberté des citoyens, le pouvoir vient limiter. Et vous répondez, mais il faudrait entendre. Je parle de liberté d'expression toujours à l'intérieur d'une communauté.
Mais je veux dire,
Qu'est-ce que vous diriez ?
Je sais pas.
Vous diriez liberté politique. Moi, je veux bien. Mais liberté politique, mais je vais exprimer ce qu'il y a de particulier à cette liberté politique, vous voyez, c'est de montrer justement cette possibilité d'exprimer ce qu'on porte en soi. Alors, évidemment, cette liberté d'expression n'est pas absolue. Elle dépend de la liberté politique et de la liberté artistique, comme toujours. Vous voyez ? Donc, elle dépend des deux. Vous n'êtes au sens absolu, votre liberté d'expression relève d'une liberté d'art. Si vous n'avez rien du tout à dire, vous êtes libre, vous n'avez rien à dire.
Vous êtes en silence. Si par exemple, dans une communauté, pour maintenir l'autorité, a aussi un devoir de veiller à ce que ce qui est dit ne soit pas objet de scandale pour la communauté.
C'est l'amour du bien commun, c'est aussi la coopération. Oui. Si ça brise la coopération, et si ça suscite des oppositions, oui, que vous pouvez susciter par exemple l'excité, des colères, et extraordinaires, si ça fait du mal, à ce moment-là, vous brisez le bien commun. Et en brisant le bien commun, vous n'avez pas la liberté d'expression. Vous avez peut-être à supprimer. C'est le pouvoir qui l'apportera sur le monde. Bon. Quatrième type, alors, la liberté religieuse. La liberté religieuse. Qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse ? Sur quoi se fonde la liberté religieuse ? Et de nouveau, je retrouve ici le caractère personnel. La liberté religieuse n'est pas une liberté politique, c'est une liberté personnelle. Mais l'État peut diminuer la liberté religieuse dans l'expression. Vous ne vous réunirez pas en dehors des églises, même avec les meilleures intentions. Dans les églises, vous terminerez les offices à telle heure. Sauf les jours de fête, comme Noël, et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est la liberté religieuse. On voit ça à Jérusalem ou à Bethléem, quand il s'agit des diverses religions qui viennent les unes après les autres, n'est-ce pas ? Et alors on voit bien que cette liberté religieuse est extrêmement limitée. J'étais seul dans une église, je pourrais librement m'exprimer et chanter toute la nuit et toute la journée. Il me semble. Mais comme il y en a d'autres, je suis bien obligé de tenir compte des autres, vous voyez ? Alors l'autre vient limiter. Et je n'ai pas le droit de ne pas tenir compte de la limite qu'il impose. Alors, comment pouvons-nous définir cette liberté religieuse ? Cette liberté religieuse qui est une liberté, premièrement, intérieure. C'est une liberté intérieure, pourquoi ? Parce que cette liberté religieuse repose sur un acte religieux. Un acte religieux qui consiste à reconnaître. Cette liberté religieuse va se fonder sur un acte religieux qui sera l'adoration. C'est un acte intérieur. Je suis libre d'adorer. Et personne ne peut m'enlever cette liberté. C'est une liberté souveraine, celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle me fait toucher ma fin dernière. Alors, nous avons vu que plus la fin était élevée, plus la zone de liberté intérieure augmentait. Et donc, cet acte d'adoration qui me met... Il me faut toucher tout de suite ma fin ultime, ma fin dernière, que les traditions religieuses appellent Dieu. L'acte d'adoration regarde Dieu créateur. Cet acte d'adoration est un acte intérieur où je suis souverainement libre. Ça touche ce qui est plus fondamental en moi. Ça touche par où je suis en relation avec ce qui est premier. Et donc, cet acte d'adoration va impliquer en lui-même, j'allais dire, une très grande liberté. Je creuse en moi une liberté. Mais ça va juste en sens inverse de ceux qui disent que l'acte d'adoration est une aliénation. Ça ne peut pas être une aliénation. Pourquoi ? Parce que ça me rejoint à mon bien, à celui qui est source. Source de lumière et d'amour. Donc ça me rejoint mon bien. Que de l'extérieur, je dis, ah, du fait même que j'adore, je ne peux plus faire n'importe quoi. Alors on dira, voilà, c'est diminuer votre liberté. Mais c'est pas ça qui est de faire n'importe quoi. Être libre consiste à prendre en responsabilité sa vie et à la conduire vers mon bien. Pour ne pas pouvoir faire n'importe quoi. Et là, vous définissez la liberté encore par quelque chose d'extrinsèque à la liberté. Alors, définir la liberté par quelque chose qui est extrinsèque à la liberté, ce n'est pas la liberté. La liberté se définit par un acte libre intérieur. Alors, donc l'adoration va creuser en moi une liberté plus grande que tout. Et comme c'est un acte très intérieur, je peux dire que personne ne peut juger cet acte. Dénoncer cet acte, limiter cet acte. Mais cet acte libre va demander de pouvoir s'exprimer. Va devoir s'exprimer, va demander de s'exprimer d'une façon visible, en communauté. Où les deux aspects se rejoignent. Maintenant, la politique, c'est la communauté. Et ici, je rejoins le point de vue de la communauté. Et ce point de vue de la communauté va s'exprimer pour des êtres qui sont croyants ou pour des êtres qui sont religieux, disons plutôt religieux, va s'exprimer en commun. Et vous avez donc à ce moment-là la liberté d'expression religieuse, la liberté de se réunir. Et la liberté de chanter en louant en commun, louant les dieux. Liberté d'expression. Cette liberté se fonde donc, d'une part, sur l'amour qui m'unit à Dieu dans l'acte d'adoration, l'acte d'adoration étant un acte d'amour fondamental, donc l'amour qui permet l'éclosion de la liberté. C'est à partir de l'amour que la liberté s'éveille. Oui, je le retrouve au niveau éthique, je le retrouve au niveau religieux. Si mon amour est très intense, la liberté sera d'autant plus grande. C'est à partir de l'amour que la liberté s'éveille, où la liberté commence à se manifester. À se montrer. Cet acte donc intérieur qui repose sur l'amour va à partir de là, au point de vue de la communauté, donner le point de vue de l'expression visible de ma louange, de ma prière. Alors, là, ça repose sur quoi ? Ça repose plus sur Dieu. Bien commun. C'est bien commun. Forcément. Un bien commun particulier, qui est le bien commun d'hommes religieux qui se réunissent et qui veulent ensemble louer, adorer. Donc ça repose sur le bien commun, sur la coopération, le bien commun, nous retrouvons. Donc il y a là une liberté qui ne repose plus directement sur l'amour qui m'unit à Dieu, mais c'est une liberté qui repose sur le fait que nous faisons ensemble une œuvre commune.
Oui. Le point de vue liturgique est lié essentiellement à la vie commune.
pas de liturgie en dehors de ça. Quand vous êtes seul, vous pouvez faire la liturgie en pensant à quelque chose. Mais normalement, la liturgie est liée à la communauté. Et la communauté d'expression, la liberté d'expression, elle est à ce niveau-là, au niveau communautaire. Oui.
C'est pour ça que la prière liturgique ne peut jamais remplacer pleinement la prière solitaire.
Jamais. Et vice-versa.
Est-ce qu'il n'y a pas, en nous-mêmes, personnellement, un besoin d'exprimer, manifester par des gestes, la vertu intérieure?
Oui. Pour chacun.
Pour chacun, donc c'est pas nécessairement lié à l'aspect communautaire.
Vous avez la liberté intérieure, personnelle. Vous voyez? S'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de communauté.
Non, par rapport à la liturgie. Disons que la liturgie était nécessairement, faisait partie nécessairement du bien commun.
Non, que la liturgie implique une communauté.
Une communauté.
Oui, je crois. Un solitaire. Quelle est la liturgie du solitaire?
Je crois que quand il prie, il n'est pas dans la position.
Attention! Un solitaire chrétien, il s'unit à la prière de l'Église. Et sa liturgie est liée à la prière de l'Église.
Ça n'empêche qu'un religieux, un solitaire religieux non chrétien peut avoir des gestes d'adoration.
Des gestes d'adoration.
Pas liturgique. La liturgie, d'ailleurs, la liturgie elle-même dit que c'est un service de
liturgie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.